Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Le bilan des victimes du Covid-19 s'est de nouveau alourdi en France. 17 167 décès sont à déplorer dans le pays depuis le 1er mars dernier. Le nombre de patients en réanimation est moindre que la veille, avec actuellement 6 467 personnes en réanimation. Par ailleurs, c'est la première fois également que le nombre d'hospitalisations en lien avec le Covid-19 est inférieur à la veille, avec près de 32 000 personnes hospitalisées actuellement. Le confinement est prolongé en France jusqu'au lundi 11 mai. C'est ce qu'a annoncé lundi soir le président de la République, Emmanuel Macron. À partir de cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement leurs portes, mais pas les établissements d'enseignement supérieur. Les restaurants, cafés, hôtels resteront fermés et aucun festival n'aura lieu avant mi-juillet. Les personnes vulnérables, c'est-à-dire âgées, en situation de handicap sévère ou atteintes de maladies chroniques, devront, elles, rester confinées après le 11 mai. Primordial pour lutter contre la propagation du coronavirus, le confinement prolongé et vécu par une grande majorité de personnes en France depuis le 17 mars dernier peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Activité physique en chute libre, sommeil compliqué à trouver, angoisse à répétition, tentation de se réfugier dans la nourriture ou devant les écrans. Nous en parlons dans cette émission aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord, nous ferons avec eux un point sur la situation de l'épidémie en France et sur le continent africain. Nous rejoignons donc pour cette émission aujourd'hui Enguerrand du ROSQUAT, il est psychologue, responsable de l'unité santé mentale, direction de la prévention et de la promotion de la santé chez Santé publique France. Et normalement, il doit être connecté également le docteur Anno Marin, médecin basé à Abidjan, directeur médical de l'espace médical La Pyramide, donc du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux, messieurs, j'espère que vous nous entendez bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Enguerrand du ROSQUAT, vous nous entendez ?
Oui, 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 je vous entends très bien.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invité. Bienvenue. Docteur Anno Marin, vous êtes là ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour.
Parfait. Allons-y donc. Alors, on a commencé un petit peu avec le bilan des derniers chiffres en France. 17 167 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 6 467 personnes en réanimation. Près de 32 000 personnes hospitalisées actuellement. Alors, on va commencer avec vous, Enguerrand du ROSQUAT. Quel regard portez-vous sur la situation de l'épidémie en France aujourd'hui ?
Un regard plutôt optimiste, puisque on observe effectivement une diminution donc concernant la sollicitation, on va dire, des professionnels de santé de première ligne. Donc effectivement, on observe une diminution des consultations auprès des médecins généralistes via notre réseau Sentinelle. On observe également une diminution des prélèvements des positifs dans les laboratoires hospitaliers. Donc il va falloir attendre une confirmation et également attendre pour que ces diminutions se répercutent notamment sur le système hospitalier pour lequel on observe déjà une stabilité, on va dire, d'évolution du nombre d'hospitalisations, d'admission en réanimation, etc. Donc plutôt un regard optimiste.
Plutôt un regard optimiste, dites-vous. Alors vous, docteur Anno Marin, quel est votre regard sur la situation française ?
Oui, c'est le même regard que j'ai avec mon confrère. Et nous, ça nous rassure, nous qui sommes en Afrique, lorsqu'on sait la qualité et l'aspect de notre plateau technique, nous disons que ces chiffres en France sont quand même optimistes, quand bien même nous, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes en pleine croissance des chiffres, quoi, qui s'augmentent tous les jours.
Enguerrand du ROSQUAT, alors est-ce que les premiers effets du confinement sont visibles pour le personnel soignant ? On évoque une baisse depuis quelques jours des personnes en réanimation. Est-ce bon signe ? Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, oui, tout à fait un bon signe. Alors moi, je ne suis pas spécialiste en particulier sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je travaille davantage les questions de santé mentale. Mais en tout cas, les données sont publics et accessibles à tous, montrent, comme je venais de vous le dire, effectivement une diminution de la charge, en tout cas sur les professionnels de première ligne. Et voilà, donc il va falloir attendre un petit peu la confirmation de ces chiffres sur le système hospitalier. Donc ça, on va attendre de voir la suite des évolutions.
Oui.
Voilà, donc je pense qu'on peut effectivement estimer que la situation de confinement, on a également des enquêtes qui montrent qu'il y a un très fort taux de suivi, on va dire, des mesures de protection, que ce soit autour de la distanciation physique ou encore de l'hygiène, donc qui est très très fortement adoptée au niveau de la population. Et donc on peut penser que c'est effectivement grâce à ces comportements collectifs qu'on observe ces résultats encourageants aujourd'hui.
Alors on a parlé beaucoup de pic hein, de l'épidémie. Est-ce qu'on l'a atteint ce pic selon vous ?
Alors c'est pareil, je ne suis pas encore la personne la mieux placée pour vous répondre là-dessus, mais en tout cas ce qu'on semble observer aujourd'hui, c'est effectivement un plateau. Donc voilà, qui tendrait à nous faire considérer que on y est peut-être sur ce pic. En tout cas, on observe aujourd'hui un plateau, donc il faut attendre de voir la consolidation des données, les évolutions, pour voir si ça va se traduire par une évolution à la baisse significative pour les services hospitaliers.
Alors, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, on le disait tout à l'heure, à partir de cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement en France, mais pas les établissements de l'enseignement supérieur. Alors, les restaurants, cafés, hôtels resteront fermés et aucun festival n'aura lieu avant mi-juillet. N'y a-t-il pas un risque, selon vous, Enguerrand du Rosquat, d'une deuxième vague épidémique dont on a beaucoup entendu parler également dans les médias ?
Alors là, ça dépendra encore une fois de la bonne adoption des comportements et des mesures qui seront annoncées par le gouvernement pour opérer ce déconfinement progressif. Donc ça dépendra effectivement du bon respect, on va dire, des mesures qui seront proposées et des préconisations. Voilà, je pense qu'on peut avoir encore une fois un regard plutôt optimiste au regard des comportements actuels des Français qui sont très responsables, en tout cas selon les données dont on dispose.
Docteur Anomarin, en Côte d'Ivoire, le port du masque est désormais obligatoire. Étiez-vous favorable à cette mesure ?
Oui, effectivement, je suis favorable à cette mesure, mais tout en sachant, en arrière-pensée, que le port du masque est une mesure complémentaire aux premières mesures qui sont celles des barrières, les premières barrières respiratoires, les premières barrières hygiéniques, ouais. Donc les gestes barrières, c'est-à-dire la mesure de distanciation sociale et la qualité, c'est-à-dire attribuer les masques anti-émetteurs à la population et les masques anti-récepteurs au personnel soignant. Donc la qualité de ce max et l'acquisition de ces max, parce que c'est vrai qu'il faut les rendre obligatoires, mais il faut pouvoir les avoir.
Absolument.
Je pense que serait une mesure essentielle, nécessaire et utile pour pouvoir freiner la propagation de cette maladie.
Alors justement, ces masques sont-ils disponibles en Côte d'Ivoire, docteur Marin ?
Alors, selon les chiffres de l'État, nous aurons les masques très bientôt, mais pour le moment, il n'y a pas de disponibilité de masques. Nous qui sommes même en entreprise, n'avons pas les masques qui répondent aux normes internationales exigées. Oui. Nous sommes obligés de confectionner de manière artisanale certains masques pour pouvoir protéger nos travailleurs et la population et les membres de leur famille.
Alors, parlons à présent de l'impact sur la santé mentale. Alors, Enguerrand du Rosquat, est-ce que le Covid-19, qui frappe essentiellement nos poumons, provoque des conséquences sur la santé mentale ? Et quelles sont ces conséquences ?
Alors, pas directement. Hein. Effectivement, on n'a pas de conséquences directes du virus lui-même sur les troubles de santé mentale. En revanche, on a effectivement des conséquences indirectes. Et notamment pour les personnes qui ont été atteintes, notamment par des formes graves,
oui.
Pour les proches aussi de ces patients, où là, on va effectivement observer des états anxieux très forts chez ces patients et pour leur entourage. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'effectivement le virus lui-même peut avoir un impact important sur la santé mentale. Après, il y a son corollaire qui est les mesures de protection et notamment la situation de confinement qui elle-même peut générer effectivement un certain nombre de troubles ou en tout cas de difficultés psychologiques qui sont observées au sein de la population.
Docteur Anomarin, les dispositions prises en Côte d'Ivoire, donc le couvre-feu, l'impossibilité de sortir le soir, mais aussi la fermeture des maquis, des lieux de festivités, est-ce que toutes ces mesures ont des conséquences sur la santé mentale des Ivoiriens, selon vous ?
Et effectivement, lorsque on catégorise les Ivoiriens, c'est-à-dire que nous avons les professionnels de la santé, qui aujourd'hui, il y a la peur, la preuve, il y a eu des manifestations de grève dues au fait qu'ils ne soient pas assez protégés dans la prise en charge des malades. Donc il y avait des facteurs de risque pour les professionnels de la santé. Au niveau de la population, moi qui suis médecin en entreprise, nous avions les différents responsables, les directeurs. Imaginez-vous qu'il y ait un cas positif dans l'entreprise. Alors, lorsqu'on fait la chaîne épidémiologique, c'est tous les cas contacts, ça risque de bloquer tout un pan d'activité d'une entreprise, que ce soit dans l'automobile, dans le béton manufacturé. Donc, il y a cette angoisse, il y a ce stress permanent. Au niveau des personnes qui portent des maladies chroniques, nous savons qu'en Afrique, il y a une légère indiscipline dans le suivi de ces maladies métaboliques, que ce soit l'hypertension artérielle, le diabète. Donc ces personnes-là sont beaucoup angoissées, inquiètes. Ouais. Donc en général, ces phénomènes de troubles mentaux, légers, aigus ou passagers, on les rencontre lorsque, et même au niveau de certains chrétiens, au niveau religieux, il y a les chrétiens qui se disent, mais est-ce que ce virus-là, il est plus fort que Dieu? Donc il y a une remise en cause de foi. Ouais. Au niveau des musulmans, le carême musulman commence bientôt. Il y a cette angoisse, cette peur, est-ce qu'on ne vivra pas la même chose comme les chrétiens qui n'ont pas pu fêter les Pâques? Alors vous voyez que pris dans l'ensemble, tel un ramassis, nous avions effectivement des phénomènes psychiques, mentaux à gérer, nous les professionnels de la santé.
Alors en Guérande du Rosquat, est-ce que le confinement qui a été mis en place en France pour enrayer la propagation du virus, avec les contraintes qu'il impose à notre mode de vie, est-ce que ce confinement peut avoir des conséquences négatives sur notre morale? Il y a également des personnes, par exemple, qui sont confinées seules. Quelles sont les conséquences également pour ces personnes qui sont isolées en ce moment sur leur morale?
Alors, effectivement, on a mis en place, dès le début du confinement, avec une première vague d'enquête qu'on a pu conduire dès la première semaine de confinement, et donc avec des indicateurs qu'on va pouvoir suivre tout au long de cette période de confinement et sans doute également en post-confinement. Donc une enquête qui vise effectivement à suivre l'état de santé mentale de la population, avec des indicateurs notamment autour du bien-être ou de la satisfaction de vie. Donc ça, on a pu voir effectivement qu'elle avait significativement diminué par rapport à des points de référence qu'on avait avant le confinement, avec notamment une baisse de 20 points sur la satisfaction de vie. Alors bon, je vous rassure, on a quand même, là aujourd'hui, en tout cas sur la deuxième semaine après le confinement, la situation s'est déjà améliorée, donc on a quand même 75% des personnes interrogées qui déclarent être satisfaites de leur vie actuelle. Donc ça va, mais effectivement, il y a quand même une proportion très significative des personnes qui déclarent notamment des symptômes anxieux importants. On a également des symptômes dépressifs, on a également des troubles du sommeil qui apparaissent de façon beaucoup plus élevée que les points de référence qu'on avait avant le confinement. Alors après, comme vous dites, par rapport au fait de vivre seul, par exemple, bon, ça, on n'a pas observé d'effet significatif sur cette variable-là. Ouais. Mais effectivement, en fonction des conditions de confinement, notamment de promiscuité au sein du foyer, le fait d'être également en contact ou en proximité avec la maladie, c'est-à-dire d'avoir eu soi-même des symptômes, en particulier des difficultés respiratoires, ou avoir des proches dans son entourage qui ont eu des symptômes, ça, ce sont effectivement des facteurs qui sont très associés à davantage de troubles anxieux en population générale.
Alors, et suite également aux annonces faites relatives à nos anciens, dont on n'a pas vraiment de date de déconfinement, ces anciens qui ne voient plus, par exemple, leurs petits-enfants, quelles sont les conséquences pour nos anciens sur leur santé mentale, le fait d'être isolés, de ne pas savoir quand ils vont pouvoir ressortir de chez elles, hein, ces personnes, et de ne plus voir leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, quelles sont les conséquences sur leur santé mentale?
Alors, pour l'instant, nous, sur les données dont on dispose, alors, on ne va pas être sur des cas particuliers, parce qu'évidemment, selon les situations, ça peut être très anxiogène, très déprimant pour ces personnes-là. Mais en tout cas, nous, sur l'image qu'on a pu obtenir en population générale, donc avec une approche populationnelle, de façon peut-être un peu contre-intuitive, c'est finalement les plus jeunes. Qui sont les plus anxieux, avec des taux d'anxiété qui sont significativement plus élevés que les personnes de plus de 50 ans, et en particulier les parents d'enfants de moins de 16 ans, donc qui les ont à la maison. Et voilà, donc les personnes plus âgées, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ont des taux d'anxiété qui sont beaucoup plus faibles. Oui. Alors c'est vrai qu'en deuxième semaine de confinement, ce taux d'anxiété a réduit de façon significative chez les personnes jeunes, et notamment les parents d'enfants de moins de 16 ans. Et ce taux-là commence à rejoindre effectivement le taux d'anxiété des personnes plus âgées. Mais en tout cas, à l'échelle de la population, sur ce que nous, on a pu observer, même si évidemment, il y aura des cas individuels, et donc il ne s'agit pas de parler de ça, en tout cas, moi, sur les données dont je dispose. Donc, peut-être que M. Marin donnera des éléments plus cliniques sur cet aspect-là. Mais donc, on n'a pas observé, en tout cas, sur cette tranche de population, voilà, une anxiété plus élevée que pour le reste de la population, et plutôt à l'inverse, un niveau d'anxiété plus faible.
Alors justement, docteur Anomara, quel est le cas en Côte d'Ivoire?
Alors, en Côte d'Ivoire, déjà, nous avons une vie associative. Bon, il faut dire qu'on n'a pas pratiquement de départ d'ici. Donc, nos parents vivent soit avec nous en famille, soit au village ou bien avec nous. Donc, il n'y a pas cet éloignement, il n'y a pas ces facteurs qu'on vivrait en Europe, où ils ont une structure familiale un peu plus différente que la nôtre.
Donc... Allez-y, que terminé, excusez-moi, docteur.
Donc, ici, malheureusement, nous ne pourrons pas avoir des chiffres exacts, mais nous avons des inquiétudes plutôt de la part des enfants, à l'endroit de leur... C'est-à-dire, quand je dis des enfants, ce n'est pas des adolescents, c'est les enfants adultes qui ont des notions sur cette maladie à l'endroit de leurs parents, qui vivraient avec eux, et pour éviter... pour éviter une contamination. Donc, c'est cette inquiétude-là que nous ressentons généralement ici. Vu que et si ses parents vivent, comme on le dit, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan, où on a le centre de l'épicentre de cette pandémie, ces personnes sont plus ou moins rassurées, ils prennent des mesures, d'autres ont fait partie, leurs parents, dans les villes à l'intérieur, dans les villes d'origine.
Alors pourquoi à présent la santé mentale est-elle si importante en période de confinement en guérant du resquat?
Alors la santé mentale est importante tout le temps, que ce soit en période de confinement ou pas. Il est d'usage de dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et si on considère la santé, c'est la résultante de trois grands domaines, hein, c'est-à-dire le domaine somatique, c'est-à-dire la santé physique, le domaine psychologique, la santé psychologique, et également le domaine social. Et donc, c'est la conjonction de ces trois grands domaines qui définit la santé. Donc, si vous avez des difficultés psychologiques ou vous êtes en détresse psychologique, effectivement, ça va avoir des impacts très négatifs de façon globale sur la santé. Et on sait très bien qu'une santé mentale dégradée est également... associé à tout un tas d'habitudes de vie relativement dégradées, des consommations de substances, moins d'activité physique, une alimentation également de moins bonne qualité. Voilà, donc la santé mentale est effectivement toujours un déterminant majeur de la santé. Alors maintenant, c'est vrai qu'en cette période de confinement, il peut y avoir des risques supplémentaires qui vont peser sur la santé mentale, notamment lié à la promiscuité, lié au fait de ne pas pouvoir conduire les activités de loisirs qui nous font généralement du bien.
Et puis on constate également une hausse des violences conjugales, notamment. On a beaucoup parlé dans les médias.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les médias. Pour l'instant, nous, là-dessus, on n'a pas plusieurs points d'enquête, donc c'est quand même quelque chose qu'on a mesuré. Mais effectivement, cette situation de confinement où les gens peuvent pas s'échapper, on va dire, de leur domicile ou aller faire un tour pour se calmer peut-être, sont effectivement davantage propices à des conflits familiaux, des graves disputes. Et quand il y a effectivement des habitudes plus ou moins maltraitantes, on peut considérer qu'il y a de fortes chances qu'elles puissent augmenter, effectivement.
Est-ce que le même constat est fait du côté de la Côte d'Ivoire concernant les violences conjugales qui augmentent, docteur Anomara?
Oui, mais nous n'avons pas de chiffres. On constate, on l'entend, on a des retours de certaines personnes, que ce soit les époux, que ce soit les épouses. Oui. Et les mêmes raisons se retrouvent dans ce que mon confrère de France vient de dire. C'est cette habitude d'être maintenant ensemble, où c'est souvent des phénomènes de jalousie, contrôler les appels des uns et des autres. Et contrôler la messagerie, et puis les hommes être un peu plus regardants sur l'hygiène à la maison, sur la qualité de la nourriture. En fait, tout ça s'explique par le stress, l'angoisse, et comme il le disait, la dégradation de la santé mentale due au confinement. Où est-ce qu'il faut faire la part des choses entre la quarantaine et puis l'isolement? La quarantaine, il y a un état d'anxiété aiguë en attendant les résultats, parce que nos données ici, c'est qu'on testait les personnes lorsqu'ils présentaient des signes. Les personnes contact étaient mises en quarantaine, donc je suis mis en quarantaine. L'anxiété, l'angoisse d'être porteur ou non de ce virus entraîne une dégradation de l'état de santé. Et puis lorsqu'on est isolé, il y a un phénomène qui apparaît après, c'est la stigmatisation. Qui peut être racial, discriminatoire, tout ça. Donc le phénomène de la stigmatisation dans la société, dans la famille, dans l'entreprise, en ajoute un peu plus. Et donc, or, comme il a dit, une bonne santé mentale entraîne un bon suivi de la prise en charge médicale de tout ce qui est somatique. Donc lorsque cette santé mentale est dégradée, on a un mauvais suivi de tout ce qui est protocole thérapeutique proposé, les mesures de confinement, on a une addiction à l'alcool, à la cigarette, et tout ça qui dégraderait l'état de santé de ceux qui porteraient des maladies chroniques, des maladies métaboliques. Donc effectivement, avoir une bonne santé mentale dans cette période de confinement là est très important.
Alors, Enguerrand du Eurosquad, comment éviter les conséquences négatives sur le plan mental du stress et de l'angoisse provoquée par le Covid-19?
Alors, il y a quelques conseils, effectivement, de base, alors qui sont rappelés notamment par l'Organisation mondiale de la santé, donc on peut suivre et délivrer au plus grand monde. Donc ça, je pourrais les rappeler. Je pense que ce qui est important, c'est déjà de rappeler collectivement un message de solidarité, de bienveillance. On est tous solidaires et humains face au virus. Dans cette période de confinement, ne pas être trop exigeant, alors avec soi-même, avec les autres. Il faut également déculpabiliser si on ne se sent pas bien. C'est normal de se sentir anxieux quand on voit les risques qui sont liés à la maladie. Ouais. Quand on voit l'incertitude qui peut être liée à la situation, quand on voit les contraintes qui sont liées également aux conditions de confinement. Donc ça, ce sont des éléments importants. Donc voilà, il y a quelques conseils effectivement qu'on peut rappeler, qui est de prendre des nouvelles de ses proches, de pouvoir parler avec ses proches de ce qu'on ressent. Cette situation de confinement désorganise aussi un petit peu la vie quotidienne. Donc il faut aussi apprendre à se reconstruire un rythme régulier, une routine, pouvoir réorganiser ses journées voilà, en lien avec cette période particulière de confinement. Également, avoir des activités de loisirs, alors même si elles peuvent être limitées du fait de cette situation de confinement, mais voilà, avoir une attention également à ça pour continuer à faire des activités qu'on aime.
Activité physique aussi, quand c'est possible.
Oui, bien sûr, garder une vie saine autant que possible, donc ça concerne l'activité physique. Alors il y a également toute la communauté qui se mobilise, hein. Il y a tout un tas de tutoriels sur Internet ou ailleurs qui propose des façons de faire de l'activité physique, par exemple chez soi. Il faut aussi faire attention autant que possible à limiter également ses consommations de substances psychoactives, que ce soit de l'alcool ou encore du tabac. Et puis un autre élément important, c'est s'informer bien sûr, mais éviter de s'exposer en continu à l'information avec le nombre de morts, etc. chaque jour. Et voilà, et savoir faire une couture sur cette information continue et aller chercher de l'information sur les sites officiels. Voilà, alors ça c'est des conseils qu'on peut donner à tout le monde. Maintenant, dans cette dimension d'inclusion sociale de tous, de solidarité, faut pas oublier quand même cette proportion relativement significative de la population qui pourrait être en grande difficulté pour différentes raisons, des vulnérabilités personnelles, mais également des situations de confinement particulières, des craintes par rapport à son travail. Et donc pour celles-là, il leur faut une réponse qui soit peut-être plus intensive, plus proportionnée. Et donc il y a tout un tas de dispositifs, de soutien psychologique qui sont mis en place de la part de professionnels ou d'associations. Il existe également un numéro vert national. Donc ça, ce sont des éléments qu'on vous a donnés. Voilà, que vous pourrez peut-être transmettre ou diffuser auprès de...
Sur les réseaux d'Africa Radio après l'émission, absolument.
Voilà, exactement.
Alors, on va peut-être terminer. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Anomarin, sur ce que vient de dire Enguerrand Durosquat.
Oui, Enguerrand, il a tout dit. Il est spécialiste. Donc, je pense que tout ce qu'il a dit, et il faudra, moi je résumerai, c'est-à-dire contrôler son exposition aux médias, chercher l'information exacte, éviter les fake news, et surtout normaliser son anxiété sans céder à la panique, son anxiété et son stress, garder le contact social et humain, et puis contrôler la nuit, la frustration et une bonne hygiène de vie, surtout au niveau du sommeil et au niveau des exercices physiques, comme vous l'aviez si bien dit.
Oui. Alors on va peut-être conclure cette émission. Il reste juste quelques minutes. En Guérin Durosquat, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on doit retenir sur les derniers conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs qui nous écoutent?
Ce qu'on doit retenir, c'est... je pense on est tous dans le même bain, donc d'être solidaire. Alors à chaque fois, à la fois sur l'adoption des mesures de protection, de se rappeler ces conseils-là également qu'on vient d'évoquer pour maintenir une bonne hygiène de vie et une bonne santé mentale pendant cette période de confinement. Et puis également avoir une attention toute particulière pour les personnes les plus fragiles. Ouais. Donc, et pouvoir faire connaître tous ces dispositifs d'aide, soi-même pouvoir donner de l'aide et également avoir une attention particulière pour ses proches qui seraient en difficulté. Et puis, un message également de optimiste, puisque on voit dans les différents pays, on regarde l'évolution et avec ces perspectives de déconfinement, que quand on suit toutes ces préconisations, la situation s'arrange et on va trouver une issue. Voilà, alors après, pour la suite, quand même, il faudra toujours veiller parce que il risquera d'y avoir quand même quelques séquelles, notamment les aspects socio-économiques, les gens qui ont très peur de mourir. Alors on risque peut-être de devoir sortir un certain nombre de syndromes post-traumatiques, de faire très attention également aux professionnels de santé qui, au-delà de la peur qu'ils peuvent ressentir comme tout le monde, également de l'épuisement professionnel et la forte charge de travail émotionnel qu'ils ont pu subir. Ouais. Donc il faudra quand même effectivement à moyen terme et long terme pouvoir suivre ces populations et les accompagner.
Je vais vous laisser conclure également, docteur Anomarin, que ça va envie de dire pour terminer rapidement.
Juste inviter les gens et les autres à l'autodiscipline, respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale et lutter ensemble contre la propagation de cette pandémie dans nos pays africains. Ça, vraiment, j'y tiens beaucoup. Je tiens à faire passer ce message, le respect des mesures de consigne.
Merci beaucoup, docteur Anneau Marin, de vous être rendu disponible. Je rappelle que vous êtes l'un de nos médecins référents dans cette période de Covid-19 sur le continent africain. Vous êtes à Abidjan, vous êtes directeur médical de l'espace La Pyramide, donc en Côte d'Ivoire. Merci. Et c'est avec nous également Enguerrand du Rosquat, psychologue responsable de l'unité santé mentale, direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé Publique France. Merci à tous les deux pour ces conseils et ces éclairages. À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.